Imaginez-vous donc que cette semaine, j'ai reçu un message de Apple. Je pensais pas que j'étais important comme ça. Apple qui m'envoie un message sur mon courriel pour m'aviser que c'était le temps, juste pour m'informer finalement qu'une de mes applications allait se renouveler automatiquement. Ah, OK. Maintenant, j'ai regardé l'application, puis c'est une application que je me sers pas beaucoup, alors j'ai voulu aller directement sur le site. Alors, j'ai cliqué sur l'image de l'application comme telle pour annuler cette inscription automatique. Et puis, lorsque j'ai reçu, tout d'un coup, j'ai un message qui me reçoit, qui m'envoie. Là. Automatiquement, quand j'ai cliqué sur l'image, wow! Il y a une image qui m'apparaît. Apple dit, wow! Attends une minute. Es-tu vraiment Normand Joseph? T'es peut-être un hacker. Un pirate informatique, puis là, tu voudrais te servir de la carte de crédit de Normand? Il n'y en est pas question. Attends, on veut voir si tu es vraiment Normand Joseph. Tu nous auras pas. Bon, en fait, c'est pas tout à fait le message que j'ai reçu, mais c'est essentiellement la même chose. Ça, c'est ma version du message, mais c'est pas mal le même message. Alors, voici le message que Apple m'a envoyé. Authentification à deux facteurs. Un message contenant un code de vérification a été envoyé à vos appareils. Saisissez le code pour continuer. Maintenant, l'authentification à deux facteurs, il appelle ça en anglais 2FA, Two-Factor Authentication, est devenue vraiment essentielle pour contrer des menaces numériques qui sont de plus en plus, ça augmente de plus en plus. Maintenant, on n'aime pas ça, tu sais, parce que là, faut que t'ailles, là, tu vas voir ton cellulaire, bon, t'as cherché le code, là, tu rentres le code, le numéro et tout ça. Tu sais, fait que c'est plate, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ça protège les utilisateurs, finalement, et ça assure la sécurité des systèmes. On pense au piratage, au vol de données. Imaginez que je connais quelqu'un qui s'est fait voler 30 000 $ dans son compte de banque. Justement, à cause du piratage, quelqu'un a réussi à rentrer dans son compte et tout ça, 30 000 $ disparu, il n'a jamais récupéré. Là. Les mots de passe qu'on se sert sont parfois fragiles, simples. Des fois, on les répète souvent. Des fois, les mots de passe sont vulnérables. Alors, mais avec une authentification à deux facteurs, même si le mot de passe est compromis, un pirate ne peut pas accéder au compte sans le second facteur. Ça l'ajoute finalement de la protection. Alors, avec l'authentification de facteurs, c'est une façon de confirmer finalement qui tu es. Lorsque j'ai rentré le code, Apple m'a dit, « Ah oui, ben oui, c'est bien toi. Salut Normand, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas parlé, on s'ennuyait de toi. » Pas vraiment. Mais le code a confirmé que c'était bien moi, c'était validé, c'est moi. L'authentification à deux facteurs valide que c'est bien toi et elle valide ton identité dans le fond. Une fois c'est rentré, c'est validé, c'est confirmé. Alors, quand on te demande ton code de vérification, ce qu'on te demande, c'est que est-ce que c'est vraiment toi ou c'est quelqu'un d'autre? Si c'est vraiment toi, c'est pas un problème. Tu as le code. Moi, je suis allé sur mon cellulaire, j'avais le code, il m'attendait, tout ça. Donc, j'ai pris le code, j'ai pris les numéros, j'ai rentré ça, tout, boum, aucun problème, je suis rentré direct. C'était mon identité. Ce système d'authentification à deux facteurs est conçu pour être simple, pour une raison simple, s'assurer que tu es réellement la personne que tu prétends être. Maintenant, ce matin, on commence une nouvelle série. Validée. D'accord? Maintenant, ça, c'est une image en passant. D'accord? Alors, si jamais, parce que si vous tombez sur YouTube, il y a quelqu'un qui est allé sur YouTube et voyait cette image et pensait qu'il fallait qu'elle rentre le code pour avoir accès au YouTube. Non, c'est une image. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est validé. Ça, c'est le titre de la nouvelle série. Alors, c'est une série qui est sur 1 Pierre, plutôt 1 Jean. Et dans sa lettre, vraiment une courte lettre, il y a juste 5 chapitres dans la lettre de Jean. Jean fait essentiellement la même chose. Il donne 2 facteurs d'authentification pour valider ou pas si tu es une personne, réellement une personne, un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui authentifie réellement que je suis un chrétien? Alors, Jean va répondre à cette question-là tout au long de sa lettre. Alors, j'aimerais commencer ce matin, on fait juste mettre la table, c'est une introduction à cette nouvelle série qui commence. Alors, 1 Jean, chapitre 1. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder les 4 premiers versets. D'accord? 1 Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'à 4. qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Maintenant, sur quoi une personne va se baser pour avoir l'assurance qu'elle a la vie éternelle? Comment savoir si je suis validé par Dieu? Certains disent être validés par Dieu, mais ne le sont pas vraiment. D'ailleurs, Jean va en faire allusion au deuxième chapitre, dans 1 Jean 2,19, il va dire, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Maintenant, on ne parle pas ici de personnes qui vont peut-être changer d'église pour une raison quelconque, ou encore de certaines personnes qui passent par des moments difficiles, et des fois, les épreuves, finalement, fragilisent un peu notre foi. On ne parle pas de ça ici. Même Jean-Baptiste, vers la fin de sa vie, la fin de son ministère, a commencé à avoir des doutes sur Jésus, donc il a envoyé certains disciples rencontrer Jésus pour s'assurer vraiment que c'était bien lui, le Messie qu'on attendait. Et sa foi est revenue comment? Et lorsque Jésus lui a donné justement, en quelque sorte, son code d'authentification, si l'on veut, qu'il était en train d'accomplir finalement les prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament à son égard. Il faisait justement les miracles attendus que le Messie devait accomplir à son arrivée. Ces personnes dont Jean parle, qu'ils n'étaient pas des nôtres, ne croyaient pas vraiment à Jésus-Christ. Jean va donc nous donner une sorte de système à deux facteurs pour discerner la vraie foi. Ces deux facteurs valident l'authenticité d'un chrétien. Ils constituent le fondement de la foi véritable. Et les deux facteurs d'authentification sont d'abord comment je vois Jésus et comment je vis pour Jésus. Alors, comment je vois Jésus? Est-ce que je crois vraiment au Jésus tel que révélé dans la parole de Dieu? Et comment je vis pour Jésus? Alors là, on parle de fruits. Et Jean mentionne deux tout au long de sa lettre. La sanctification, c'est-à-dire, est-ce que je grandis dans ma marche avec Jésus? Est-ce que je grandis dans ma sainteté, dans mon obéissance? Et aussi l'amour. Est-ce que je grandis dans mon amour pour les autres? Alors, pourquoi Jean, inspiré du Saint-Esprit, juge-t-il important d'écrire cette lettre et nous livrer son message? Et tout comme aujourd'hui, où circulent toutes sortes de pensées, de philosophies, d'idées, de théories, de convictions à l'endroit de Jésus, qui sont fausses, c'est pareil à l'époque de Jean. Jean veut d'abord corriger l'erreur, ces fausses croyances qui circulaient et affectaient l'Église. Et deux, il voulait rassurer les vrais enfants de Dieu et leur dire qu'ils ont les deux facteurs d'authentification, que s'ils ont ces deux facteurs d'authentification dans leur vie, c'est qu'ils sont validés. Ils ont la vie éternelle. Ils peuvent donc avoir l'assurance de la vie éternelle. Jean 5, 13, ceci, je vous écris cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, étudier 1 Jean, c'est vraiment pas évident. Je sais pas si vous connaissez Chuck Swindoll ou d'autres le connaissent par Charles Swindoll. Il a un ministère de radio depuis plusieurs années. Il a un ministère qui s'appelle Insight for Living, une émission de radio où il prêche l'Évangile, enseigne la parole de Dieu depuis des années, plusieurs années. À 90 ans, il continue encore, imaginez, à plus de 2000 stations. Il vient de prendre sa retraite de son église comme pasteur, imaginez, à l'âge de 89 ans. Alors, vraiment, vous aimeriez ça prendre votre retraite à 89 ans, c'est comment? Alors, il continue. Et puis, voici ce que cet homme de Dieu qui étudie la parole de Dieu depuis plusieurs années a dit. Il dit, « J'ai finalement trouvé le courage d'apporter des prédications et d'enseigner sur 1 Jean après 46 ans à étudier la parole de Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit à Ado, « Mais dans quoi on s'est embarqué, bon sang? » Ça va être un défi. Voici ce qui se passe. En fait, la lettre de 1 Jean suit pas vraiment la convention habituelle des auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, quand tu prends les lettres de Paul, même si les lettres de Paul sont parfois compliquées, il y a des choses assez compliquées, même Pierre en fait allusion dans une de ses lettres, il y a des passages difficiles dans les lettres de Jean. Même ça, malgré ça, il suit pas mal d'une structure dans ses 13 lettres du Nouveau Testament, il suit pas mal d'une structure qui est linéaire. Il va commencer son premier point. Il va développer une idée. Il saute au deuxième. Après ça, il saute au troisième. Après ça, au quatrième. Mais avec Jean, c'est vraiment là, all over the place. Là. C'est tellement différent. Là. Il va commencer le point 1. Il va développer le point 2. Et là, wow, il saute au 4. Et, OK? Il saute au 2. Revient au 1. Revient au 3. C'est comme... Et apparemment, c'était une façon habituelle de l'époque qu'on appelait une structure à l'époque qui se faisait, qui s'appelait amplification. Alors, il développe ses idées et il tourne autour de ses idées à plusieurs reprises avec un angle un peu différent. Et c'est ce qui donne l'impression que quand tu lis la lettre d'un Jean, que c'est redondant, que ça revient souvent. Ah, il me semble qu'il en a parlé au chapitre 1. Oui, effectivement, il en a parlé au chapitre 1. Mais il ajoute d'autres angles. Don Carson a dit ceci à propos de 1 Jean. Il dit, dans un sens, il s'agit d'un livre très simple, mais cette simplicité cache une profondeur considérable. Maintenant, ce qui va nous aider vraiment à mieux comprendre cette lettre de Jean, puis je pense que c'est important de faire cette introduction-là ce matin, c'est de comprendre ce qui se passait à l'époque. D'un Jean, ces menaces d'enseignement qui circulaient, ces fausses doctrines, ces hérésies qui circulaient et affectaient aussi l'Église. Un exemple, le gnosticisme. Je vous lance le défi de le répéter 3 fois de suite. À l'époque de Jean, comme le dit Donald Burdick dans son commentaire sur 1 Jean, c'était l'époque du boom des religions à mystère, l'époque de l'occulte, l'époque de la prolifération des sectes gnostiques. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jean va écrire sa lettre pour corriger cette hérésie qui devenait de plus en plus populaire. Ça faisait déjà des ravages et ça a duré un bon moment, au moins 200 ans. Là. C'était une hérésie qui a commencé vers la fin du 1er siècle puis a continué, a pris vraiment de l'ampleur. Et ça affectait l'Église. Alors, c'est important de corriger ces fausses pensées pour protéger l'Église. Alors, c'est quoi ça, le gnosticisme? Ça vient d'un mot qui veut dire « connaissance ». Et l'une des choses que cette hérésie enseignait, c'est que la connaissance était la voie du salut. Ils enseignaient ainsi que la matière était essentiellement mauvaise et que c'était l'esprit qui était bon. Ils croyaient que le monde physique était intrinsèquement mauvais. Selon eux, ce monde et tout ce qu'il contient ne pouvait pas être l'œuvre du vrai Dieu purement spirituel, mais plutôt celle d'un être inférieur et corrompu. C'est pour cette raison que les premiers gnostiques croyaient d'ailleurs que Jésus n'était pas vraiment physique, parce qu'ils pensaient que tout ce qui était physique était charnel, c'était mauvais. Ils rejetaient donc l'incarnation physique de Jésus venu dans la chair. Le refus de croire à l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, Jésus, le refus de croire que Dieu s'est fait homme, a pris vraiment à l'intérieur du gnosticisme 2 formes. Un groupe croyait que le corps de Jésus n'était pas réel, pas physique. C'était simplement, ça semblait seulement l'être, mais c'était pas un être vraiment physique, c'était un fantôme. Alors, c'était pas la vraie chair, mais juste un esprit fantôme. C'était finalement de la superstition. Une autre forme enseignait que l'esprit de Jésus était descendu sur l'homme, Jésus, lors de son baptême, mais il l'avait laissé avant la crucifixion. Maintenant, c'est ce que Jean va corriger tout au long de sa lettre. Il va commencer sa lettre en établissant solidement qui est vraiment Jésus. Et ce que tu crois de lui valide ou pas ta relation avec Dieu. Maintenant, vous pouvez comprendre que si la matière n'est pas importante, tu peux faire ce que tu veux finalement avec ton corps. Et c'est ce qu'il pensait. C'est pas important. Tu peux mener la vie que tu veux, tricher aux impôts, mentir, tricher, voler, tout ce que tu veux. C'est pas important. C'est le corps, c'est la matière, c'est mauvais ça. C'est le spirituel qui est important. Alors, les gnostiques étaient donc indifférents aux valeurs morales et à une conduite qui allait plaire à Dieu. Ne cherchez pas ça. Pour eux, le corps n'était que la prison dans laquelle l'esprit s'incarnait. Le péché commis dans le corps n'avait aucun rapport avec l'esprit. Eh bien, les gens pensent la même chose, essentiellement, pas tout à fait aussi sophistiqué, mais grosso modo, pas mal la même chose. Tu peux croire en Dieu, tu peux croire en Jésus, etc., mais tu peux mener la vie que tu veux, c'est pas important, ça. C'est comme si on sépare les deux. Alors, Jean va corriger ses mensonges à plusieurs reprises. Remarquez ce qu'il dit, chapitre 1, verset 6, il dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Alors, vous remarquez ce qu'il dit, « Si nous disons », ça fait référence à qui ça? Ça fait référence à ces personnes-là, là, ces faux docteurs-là qui enseignaient ces hérésies. Et il va le faire plusieurs fois, il va corriger tout au long de sa lettre, pendant les cinq chapitres. Il va dire au chapitre 1, verset 8, « Si nous disons », chapitre 1, verset 10, « Si nous disons », chapitre 2, 4, « Celui qui prétend », chapitre 2, verset 6, « Celui qui affirme », et chapitre 2, verset 9, « Celui qui prétend ». Alors, il fait ça à travers toute sa lettre. Il est toujours en train de corriger ces hérésies qui circulaient. Alors, c'est comme ça tout le long. Mais en plus de leurs erreurs sur la personne de Jésus et sur la sainteté, il y avait un autre gros problème aussi. C'était un manquement d'amour. Il manquait beaucoup d'amour. Les gnostiques, par exemple, se percevaient comme l'élite spirituelle, les seuls détenteurs de la connaissance spirituelle. Eux autres avaient vraiment, ils étaient branchés, là. Alors, ils se moquaient de ceux qui n'avaient pas reçu la même connaissance. Ils étaient arrogants, dépourvus de sainteté, mais aussi dépourvus d'amour. Beaucoup d'orgueil. C'est pourquoi Jean va dire au chapitre 4, verset 1, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Il traite ses faux docteurs de menteurs. Donc, de faux enseignements sur Jésus, de faux enseignements sur la façon de vivre, c'est-à-dire la sainteté, et de faux enseignements sur l'amour. Alors, que fait Jean? Il va confronter le mensonge avec la vérité. Alors, les deux facteurs pour savoir si on est validé par Dieu, si notre relation avec Dieu est vraie, commencent en croyant au vrai Jésus et en cherchant la sanctification qui va se traduire par l'obéissance et l'amour. Mais Jean va commencer avec Jésus. Le fondement de la foi véritable commence avec Jésus, c'est la fondation. La personne de Jésus est centrale à la foi authentique. Ce que je crois de Jésus, ça fait toute la différence. Jean ne perd pas de temps à entrer dans le vif du sujet, il prend même pas de temps de saluer les gens, pas de salutation dans sa lettre, il prend même pas de temps de se nommer, absolument les auteurs du Nouveau Testament vont se nommer, moi, Paul, etc. Pas du tout. Suite, il rentre dans le vif du sujet. C'est tellement critique de mettre par écrit la vérité inspirée par l'Esprit-Saint ici. Jean ouvre sa lettre en révélant tout de suite qui est vraiment Jésus, en nous donnant quatre affirmations puissantes sur la personne de Jésus-Christ. Et la première affirmation, très claire, il dit « Jésus est réel, c'est pas un fantôme. » Verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » C'est pas un fantôme. On l'a entendu. J'étais là. Jean qui dit ça. On était là, les disciples. On l'a entendu. Je suis un témoin oculaire. Il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Alors, il parle de trois sens ici. Écoute, vu et toucher. Alors, contrairement à ces faux enseignements, les faux enseignants qui prétendaient c'est que Jésus est un fantôme. Jésus n'est pas une connaissance secrète et mystique réservée uniquement à une élite qui détient une connaissance supérieure. Pas du tout. Jean explique qu'il a perçu Jésus au moyen de ses sens naturels. Tout d'abord, il dit, on l'a entendu, on était là. Pendant plus de 3 ans, tout le nombre du ministère terrestre de Jésus-Christ, on était là, on entendait ses enseignements. Puis il n'a pas entendu juste une seule fois, là. Il était 24 heures sur 24 avec lui, là. Alors, il va dire, d'ailleurs, dans son évangile cette fois-ci, ça c'est une épître, courte lettre, mais dans son évangile, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 30, il va dire, Jésus accomplit encore, en présence de ses disciples, dont je fais partie, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Juste le chapitre plus loin, chapitre 21, verset 24, encore une fois, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si l'on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors, on l'a entendu ces enseignements. On était là. Deuxièmement, il dit, je l'ai vu. On l'a vu. Pas juste entendu, là. Jean dit, nous l'avons vu de nos yeux pour dire qu'il fait allusion à une personne physique et non à une vision spirituelle quelconque qui n'existe que dans notre esprit, là. Il dit, non, il y avait un corps. Il était là. Jésus était un homme réel. Je l'ai observé pendant plus de 3 ans. Troisièmement, il dit, j'ai aussi contemplé Jésus. C'est un mot qui va revenir 22 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire essentiellement la même chose. On l'a vu, on l'a regardé attentivement, on l'a scruté, on l'a analysé, on l'a écouté. Jean a vu le pouvoir surnaturel de Jésus. Son pouvoir sur la nature, il a calmé la tempête, il a nourri plus de 4000 hommes, ça veut dire avec les enfants puis les parents et tout ça, ça veut dire peut-être 20 000 personnes. Une autre fois, il a nourri 4000 hommes, donc avec les enfants, parents, famille, les mères et tout ça. Une autre, 20 000 personnes. On l'a vu, on était là. On a vu ces miracles-là. Il a guéri la belle-mère de Simon, il a guéri un aveugle de naissance, plein d'autres miracles, tout aussi extraordinaires les uns des autres. On lit même un passage, des fois on passe vite là-dessus, là, qui rentre dans une ville puis il sortait puis il n'y avait plus de malades, là. Imagine-toi, là, tu sais, les hôpitaux qui font faillite, là, c'est comme incroyable, là, c'est... Il y a tellement fait de miracles, c'est pour ça qu'il va dire à la fin de son évangile, il dit, il y en a tellement fait, écoutez, je peux même pas les écrire, j'en ai choisi quelques-uns. 4, il dit, j'ai également touché Jésus. On l'a touché, il y a un corps, c'est pas un fantôme, là. Les gens pouvaient certainement en parler. Jean, si vous savez, c'est passage, plus de 5 fois, il va même dire, je suis le disciple que Jésus aimait. Hein, vous vous rappelez ces passages-là, ces beaux passages, passages tendres, là, tu sais. 5 fois, il va dire ça dans son évangile. Comme Jean 13, 23, qui dit, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Il s'est penché, hein, pour parler de Jésus, à Jésus. Jean était très proche de Jésus. Il faisait partie de son cercle intime, vraiment. Alors, il peut dire, on l'a touché. Pensez à Thomas, par exemple. Vous vous souvenez? Jésus a encouragé Thomas à le toucher lorsqu'il est apparu aux disciples après sa résurrection. Jean 20, 27, qui dit, puis il dit à Thomas, c'est Jésus qui dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. En ça, j'entends des amens, mais en tout cas, mon Seigneur et mon Dieu, ne sois pas incrédule, mais crois. Et voici la réaction de Thomas. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ouais, c'est correct. Ça rentre dans le timing, c'est correct. Alors, parce que tu m'as vu, t'as cru, dit Jésus. Hein? Parce que tu m'as vu, t'as cru. Il dit, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu, hein, et qui ont cru. Alors, Jean pouvait certainement dire, on l'a touché. D'ailleurs, le mot toucher est vraiment tendre ici. Le mot toucher qu'il utilise, c'est le mot d'un aveugle qui touche le visage de quelqu'un pour le reconnaître, pour étudier la forme de son visage. Alors, Jésus est réel. La prochaine affirmation qu'il va faire, c'est que, un, Jésus est réel, mais deuxièmement, Jésus est Dieu et s'est incarné en homme. Verset 2. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Cette vie-là, là, s'est manifestée à nous. Jean, au verset 1, appelle Jésus la parole de vie. Et au verset 2, il dit, cette parole de vie s'est manifestée, on l'a vu. Ça fait référence à l'incarnation. Jean affirme l'authenticité de Jésus en tant que fils de Dieu incarné. Jésus n'est pas un fantôme, pas qu'un esprit. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus est la parole de vie, ce qui fait référence d'abord à Genèse 1. Vous savez, cette parole qui a créé le monde et tout ce qui existe. Mais aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, où il parle de la parole. Verset 1, Jean 1, 1, qui dit au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, la parole était Dieu, d'accord? Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et plus loin, au verset 14, Jean va dire « Et la parole s'est faite homme. » Alors, cette parole qui est Dieu s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pour Jean, le mot « Dieu » désigne à la fois le Père et le Fils qui est venu apporter la vie dans le monde. Verset 2 dit ceci, « La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. » C'est ce que nous vous annonçons, c'est ce qu'on vous présente, c'est le message. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Deux fois, c'est ce qu'on vous annonce, c'est notre message. En d'autres mots, le message qu'on vous donne sur la vie éternelle en Jésus, c'est basé sur le fait que nous avons vu, entendu, touché de nos propres mains. Alors, Jean proclame un message qui a été incarné dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Alors, Jean était donc un témoin véritable, crédible. C'est pourquoi il proclame son message. Et quel est ce message? Bien, il le dit. On vous annonce le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. On vous annonce la parole de vie. Et le mot « vie » va revenir, juste 5 chapitres, va revenir 14 fois dans cette lettre, courte lettre. Et c'est ce qui nous incite aussi à l'Église de Sentier, comme Dominique, pasteur Dominique le mentionnait ce matin. C'est ce qu'on veut. On veut saturer cette ville avec ce beau message de la vie éternelle qui se trouve en Jésus. C'est la prochaine affirmation que Jean fait sur Jésus. Il est la source de la vie éternelle, verset 3. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Jean proclame la parole de vie afin que tous les croyants réalisent qu'ils sont en communion avec Jésus-Christ et les autres croyants. C'est relationnel qu'on a une relation intime avec Dieu et avec le Seigneur Jésus. Le mot « communion » ici, utilisé dans l'original, signifie participation, partage. Jean veut absolument nous enraciner dans la vérité qu'il n'y a pas de communion avec Dieu si elle n'est pas fondée sur l'œuvre personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Notre communion avec Dieu se fait par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Mais dans le péché a rompu cette communion et Jésus a dû venir pour vivre la vie que nous ne pouvons pas vivre, mourir de la mort que nous aurions dû mourir et revenir à la vie en triomphant du péché et de la mort. Il est notre avocat, notre justice, il est notre propitiation. Propitiation désigne le sacrifice de Jésus-Christ qui apaise la colère de Dieu et rétablit la relation entre Dieu et les hommes. Jean explique que lorsque les gens entendent le message sur Jésus et qu'ils croient, ce message les fait entrer dans une relation réelle avec Jésus lui-même et dans une participation réelle à l'amour et à la vie de Dieu. Dans l'une de ses lettres, l'apôtre Paul va terminer sa lettre avec cette bénédiction. Il va dire dans 2 Corinthiens 13 que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Cette communion, cette relation intime. Avec Jésus, nous sommes en communion avec Dieu. On peut donc comprendre la dernière affirmation de Jean. Jésus est la source de la joie parfaite. Verset 4. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Jésus procure une joie entière et une satisfaction parfaite. C'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean 15, verset 11. « Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Martin Lloyd-Jones dit quelque chose de vraiment intéressant sur la joie du Seigneur. Pour expliquer la joie que la Bible présente, elle est différente. Pour définir la joie au sens du Nouveau Testament, dit-il, nous ne consultons pas le dictionnaire, on consulte le Nouveau Testament. Il s'agit de quelque chose d'assez particulier qui ne saurait s'expliquer. Il s'agit d'une qualité qui appartient à la vie chrétienne dans son essence. Le monde n'a jamais vu personne qui connaissait la joie comme le Seigneur l'a connue. Et pourtant, c'était un homme de douleur et habitué à la souffrance. La joie est quelque chose de très profond, quelque chose qui influence toute la personnalité. Autrement dit, elle conduit à cela. Une seule chose peut procurer la vraie joie, et c'est la contemplation du Seigneur Jésus. Il satisfait mon esprit, il satisfait mes émotions, Il satisfait chacun de mes désirs. Lui et son grand salut englobent toute la personnalité, rien de moins. Et en lui, je suis complet. La joie, en d'autres mots, est la réponse et la réaction de l'âme à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors, voilà ce que nous dit Jean sur Jésus. Jésus est réel. Il est le Dieu fait homme. Il est la source de la vie éternelle et de la joie parfaite. J'inviterai les musiciens à venir. Un jour, il y a un pasteur du nom de Rittenhouse et sa famille qui était en vacances. Alors, ils ont pris leur voiture, s'en vont sur la route et tout d'un coup, ils voient une voiture juste en avant d'eux. Et la voiture avait, il y avait un coffre sur le toit, la voiture devant eux. Il y avait un coffre assez gros sur le toit. Et eux conduisaient. Et puis, tout d'un coup, le coffre est parti revoler dans les airs, se retrouver sur le bord du chemin. Alors, Rittenhouse et sa famille ont détourné la voiture pour aller chercher le coffre. Alors, prennent le coffre, la mettent dans la voiture, part avec la voiture, essaient de rejoindre l'homme qui est parti, mais était tellement plus loin que finalement, ils n'ont jamais réussi à le rejoindre. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dirigés là où ils devaient aller, ils sont arrêtés, puis ils ont commencé à fouiller dans le coffre pour voir s'ils n'allaient pas trouver l'adresse, finalement, de cet individu. Mais ils n'ont jamais trouvé l'adresse, mais ce qu'ils ont fait, finalement, ils ont trouvé une médaille. Une médaille, pas une médaille en or, mais une médaille couleur or, une médaille d'or, en quelque sorte. Puis il y avait quelque chose d'écrit dessus. C'était écrit « Donné à Otis Simpson lors de sa retraite par la Portland Cement Company ». Alors, c'est quelque chose qu'il avait reçu. Il avait reçu cette médaille d'or, en quelque sorte, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite. Probablement qu'il avait travaillé toute sa vie dans cette compagnie de ciment. Alors, lui et sa famille ont commencé, le pasteur et sa famille ont commencé à faire des recherches pour voir s'ils n'allaient pas trouver, finalement, l'adresse d'Otis Simpson. Ils ont réussi à le trouver, finalement. Et ils ont écrit pour lui dire, « Nous avons votre valise. Et nous l'avons trouvée. Nous voulons vous la remettre. » Le gars a répondu avec une autre lettre, il a envoyé une lettre, puis il a dit ceci, écoutez, laisse faire le coffre, ça m'intéresse pas, ce qu'il y a dedans d'ailleurs, c'est insignifiant, mais je veux absolument avoir la médaille d'or. Médaille qui valait peut-être 20 $, là. Mais je veux absolument avoir la médaille d'or. Maintenant, pouvez-vous me la rendre, s'il vous plaît? Et voici ce qu'il a dit à plusieurs reprises dans sa lettre. Cette médaille est mon bien le plus précieux. Une pièce d'or de 20 $ donnée à Otis Simpson lors de sa retraite. Alors, le pasteur et sa famille lui ont envoyé, mais le pasteur Rittenhouse lui a écrit une lettre et lui a dit ceci. « Cher Monsieur Simpson, je vous envoie ceci tel que demandé. Vous avez mentionné que c'était votre bien le plus précieux. Puis-je avoir l'audace de vous dire qu'est-ce que je possède de plus précieux? » Alors, il a fait part à Otis de sa relation avec Jésus-Christ et a expliqué comment cet homme aussi pouvait connaître le Seigneur Jésus d'une façon personnelle, comme sauveur et Seigneur. Un an plus tard, jour pour jour, le pasteur Rittenhouse a reçu une lettre, une enveloppe d'Otis Simpson dans laquelle figurait la pièce d'or. La même. Il a dit, « Je vous la rends pour que vous la gardiez. » Parce qu'a-t-il dit, « Ce n'est plus ma possession la plus précieuse. » Il dit, « Maintenant, nous sommes des membres actifs d'une église qui prêche la Bible, la parole de Dieu. Et je veux que vous sachiez, monsieur, que Jésus-Christ est mon bien le plus précieux. » Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Bien-aimé, j'espère que Jésus est ton bien le plus précieux. Seigneur Jésus, combien nous voulons te remercier pour tes grandes bontés, pour ta grâce. Merci pour ta parole aussi. Merci pour Jésus. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Et combien nous te remercions, Seigneur. Et nous prions que si jamais il y a une personne ici dans l'Assemblée, un homme, une femme, un jeune, moins jeune, qui n'a pas fait encore ce pas de foi, de croire, comme Jésus dit à Thomas, crois, crois Jésus. Et bien que ce matin même, il puisse ouvrir son cœur à toi. Que tu puisses lui apporter cette joie indescriptible, abondante, inexplicable. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen.